les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Monsieur le Président, ne me faites pas arrêter. Je suis venu me mettre à la disposition de la justice, et même si je ne l'ai pas fait dans des formes académiques, vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Il y va de la vie de l'inculpé. Président Rocou, j'exprime sincèrement à l'égard du tribunal mes plus profondes excuses. Je respecte la justice, mais hélas, j'ai dû entrer comme j'ai pu.
Je vous remercie de ces explications, monsieur. Soyez persuadé que le tribunal en tiendra compte. Gendarme, qu'on l'emmène.
Monsieur le Président.
Maître Henri Robert.
Plaise à la cour de bien vouloir excuser Joseph Rouletabille. C'est un journaliste brillant et un enquêteur de qualité. Il n'a que les défauts de ses qualités, monsieur le Président. À la vivacité d'esprit correspond souvent chez un homme jeune une certaine désinvolture. À la générosité du cœur, un élan irrépressible pour la vérité.
Je propose que nous étudions cela plus tard, maître, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
La défense insiste respectueusement, monsieur le Président. Joseph Rouletabille n'est pas un témoin comme les autres. Je crois au contraire que nous avons la chance d'avoir ici un témoin inespéré. Joseph Rouletabille a séjourné au château du Glandier pendant toute la semaine mystérieuse, il prétend prouver l'innocence de l'inculpé.
Dois-je vous rappeler, maître, que les débats que je préside n'ont pas d'autre dessein ? Prouver la culpabilité ou l'innocence de Robert Darzac.
Monsieur le Président, Rouletabille proclame qu'il possède le nom de l'assassin.
Merci, maître. Bien. Jeune homme, tout ceci est extrêmement grave. Vous connaissez le nom de l'assassin ?
Oui, monsieur le Président.
Et vous allez nous livrer ce nom ?
Mais je ne suis venu que pour cela, monsieur le Président.
Monsieur le Président, Joseph Rouletabille ne figure pas sur la liste des témoins. Je demande à la cour d'user de son pouvoir discrétionnaire afin que vous puissiez l'interroger.
Bien, bien, bien. Nous l'interrogerons, mais finissons-en d'abord.
Monsieur le Président,
la parole est à monsieur l'avocat général.
Monsieur le Président voudra bien excuser cette intervention. Et je pense que l'on me rendra cette justice. L'avocat général n'est guère intervenu jusqu'à présent. Bien que les débats aient pris une tournure peu commune, qu'en tant que magistrat, je ne puis que réprouver. Mais je viens d'apprendre, et on rapporte de tous les côtés, que ce jeune homme détient, non pas la pierre philosophale, mais le nom de l'assassin. Nous allons gagner un temps bien précieux si ce nom nous est livré dans les plus brefs délais. À quoi bon continuer à errer si Joseph Rouletabille, journaliste de grand talent et expert criminologue, n'a qu'à ouvrir la bouche afin d'éclaircir les ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés depuis déjà un certain temps.
Le tribunal apprécie à sa juste valeur l'ironie caustique de monsieur l'avocat général. Et si ce dernier attache de l'importance à la déposition de Joseph Rouletabille, je ne vois pour ma part aucun inconvénient à ce que le témoin nous révèle tout de suite le nom de l'assassin, enfin de son assassin. Eh bien, monsieur, nous attendons.
Si vous me voyez regarder ma montre avant de vous répondre, monsieur le président, je vous prie de n'y voir aucune impertinence. Malheureusement, je ne pourrai vous dévoiler le nom du coupable qu'à 6h30.
Oh. Monsieur le président, je m'assure.
Or, nous avons 4 bonnes heures devant nous.
Après un coup comme celui-là, il aura du mal à retrouver la sympathie du jury.
Il mène très bien sa barque, mais j'ai très peur qu'il n'affiche en l'air la défense de Darzac. Nous sommes en cour d'assises, et il confond avec Medrano. C'est du cabotinage pur et simple.
Bon, écoutez, monsieur Rouletabille, la plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer dans la salle des témoins et rester à la disposition du tribunal.
Je vous affirme, monsieur le président, que lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez qu'il m'était absolument impossible de le dévoiler avant 6h30. Ma parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Cependant, si ça intéresse la justice, je peux fournir des explications sur le meurtre du garde. Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au château du Glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute l'affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter Robert Darzac, il a fait incarcérer un innocent, Larsan ne doute pas de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes, qui ont souvent corroboré les siennes d'ailleurs.
Au fait, monsieur, au fait.
Je vous en prie, monsieur le président. Je me permets d'assister. Il serait intéressant d'entendre un peu plus Joseph Rouletabille est d'autant plus intéressant qu'il ne partage pas du tout mes déductions.
Bien. Si monsieur l'avocat général n'y voit pas d'obstacle, et bien que cette procédure soit tout à fait inhabituelle, j'accepte cette façon de diriger les débats qui peut peut-être servir la cause de la vérité, mais sûrement pas celle du code de procédure pénale.
Oh, la partie civile sacrifie tout à sa passion de la vérité.
Merci, maître. Monsieur Frédéric Larsan.
Monsieur le Président.
Nous vous écoutons. Monsieur Larsan, dites-nous en quoi vos déductions diffèrent de celles de monsieur Rouletabille.
Eh bien, il est vrai que Rouletabille et moi-même, nous sommes d'accord en ce qui concerne le coup de couteau qui a mis fin au jour du garde et qui lui a été donné par l'agresseur de Mathilde Stangerson. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur la question de la fuite de l'assassin par le bout de la cour. C'est bien cela, monsieur Rouletabille.
C'est tout à fait cela, monsieur Larsan.
Eh bien, dans ces conditions, je suis curieux, au même titre que l'Assemblée, de connaître les explications de cette fuite vue par monsieur Rouletabille.
Je vous l'accorde, monsieur Larsan, c'est en effet curieux.
Ah, je vous en prie, silence. Il n'y a vraiment pas de quoi rire.
Tout à fait raison, monsieur le président. Il n'y a vraiment pas de quoi rire.
Silence. Bon, vous avez entendu, jeune homme, ce que vient de dire monsieur Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour?
Monsieur le Président, j'aimerais que madame Mathieu revienne à la barre.
Madame Mathieu!
Madame Mathieu, puisque vous avez bien voulu faire l'aveu de votre légèreté devant ce tribunal et reconnaître que vous étiez, et ce depuis un certain temps, la maîtresse du garde, de l'homme en vert, il me
semble que vous pouvez bien révéler que vous aviez souvent rendez-vous la nuit avec votre amant au premier étage du donjon, dans la chambre qui fut autrefois un oratoire. Dieu protège ainsi les amours ancillaires. Ai-je raison, Madame Mathieu ?
Pour ancillaire, je ne sais pas. Ah, oui. Pour le reste...
Bon, exact, oui ou non ?
C'est la vérité.
J'ajouterais que ces relations nocturnes sont devenues de plus en plus fréquentes par le fait que le mari de Madame Mathieu était cloué au lit par une crise aiguë de rhumatisme. C'est la vérité, madame ?
Ben...
Non, dites seulement oui ou non.
Oui, c'est vrai.
Vous n'êtes coupable qu'envers votre mari, madame, mais je ne vous félicite pas pour votre moralité.
Monsieur le Président, quand un homme marié fait la même chose, on dit simplement qu'il est en bonne santé. Alors...
Je vous dispense de vos commentaires, madame. Je vous en prie, monsieur Rouletabille.
Pour jouir...
Monsieur...
D'une relative sécurité... Madame Mathieu et son amant avaient trouvé un moyen efficace, légal et parfaitement approprié, une piqûre de morphine. Enfin, un médicament à base de morphine. Cela donnait au père Mathieu le calme et le repos. Et cela tranquillisait son épouse pendant quelques heures. Ces quelques heures qu'elle mettait à profit pour parfaire ses entretiens avec l'homme en vert.
La subtile délicatesse de Monsieur Rouletabille nous émeut.
Merci, monsieur l'avocat général, merci.
Poursuivez, monsieur Rouletabille.
Donc, pour ces escapades nocturnes, madame Mathieu s'enveloppait dans un grand châle noir, afin de n'être pas reconnue, au cas où elle ferait une rencontre fortuite. Et voilà l'explication du fantôme noir, qui quelquefois troubla les nuits du père Jacques. Et ce n'est pas tout.
Quoi encore ?
Il fallait également un signal, n'est-ce pas, madame Mathieu ?
Non, pourquoi faire un signal ?
Mais pour prévenir son amant, monsieur le président. Ah, c'était pas très ingénieux ni très malin. Madame Mathieu avait tout simplement emprunté son chat à la mère à genoux.
La mère à genoux.
Oui, c'est une espèce de sorcière qui sévit à Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle possède une bestiole à vous donner des cauchemars. Et qui miaule d'une façon sinistre. Dans le pays, on appelle ça le cri de la bête du bon Dieu.
Bon, alors.
Alors, dès que le garde entendait le cri, il descendait de son donjon et... venait ouvrir la poterne à sa maîtresse. Quand les réparations du donjon furent entreprises, les rendez-vous continuèrent d'avoir lieu dans l'ancienne chambre du garde, au donjon même. La nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur ne pouvait en effet convenir à des rencontres clandestines, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle devait être bruyante et passionnée. Située à l'extrémité de l'aile droite du château du Glandier, elle n'était séparée de la chambre du maître d'hôtel et de son épouse que par une cloison dont le moins qu'on puisse en dire également est qu'elle était trop mince. Bon, j'en arrive au soir de l'assassinat du garde.
Monsieur Rouletabille, la cour a apprécié comme il convient les éclaircissements que vous venez de donner, mais nous arrivons au plus sérieux, à la mort du garde.
Donc, madame Mathieu... vient de quitter son amant en parfaite santé quand survient le drame qui se joue dans le petit bout de cour. Après ce qui vient de se passer entre eux, on peut penser que Mme Mathieu et le garde n'ont plus grand-chose à se dire. Alors, ils sortent ensemble du donjon. N'est-ce pas, Mme Mathieu ?
Mme Mathieu, je vous en prie. Si toutes les femmes infidèles devaient se conduire comme vous, le monde entier serait peuplé de pleureuses. Ah, nous admettons que vous puissiez être affligé et vos pleurs réitérés seraient là pour nous le rappeler au cas où nous aurions tendance à l'oublier. Mais je tiens à vous préciser que vous êtes ici en cour d'assises, dans une enceinte de justice, et que vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Vous avez juré de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.
Oui, monsieur le président.
Donc, ce soir-là, êtes-vous réellement sorti du donjon en compagnie de votre amant ?
Oui, monsieur le président.
Veuillez continuer, monsieur Rouletabille.
Je n'ai appris ces détails, monsieur le président, que grâce à l'examen des traces de pas auxquelles je me livrais le lendemain matin dans la cour d'honneur. Un détail encore. Bernier, le concierge, que j'avais placé en observation avec son fusil derrière le donjon. Ainsi qu'il pourra vous l'expliquer lui-même, il était dans l'impossibilité de voir, d'observer ce qui se passait dans la cour d'honneur. Il n'y arriva qu'un peu plus tard, attiré par les coups de feu. Et entendant nos sommations, il tira à son tour.
Donc, s'il vous plaît, revenons à notre couple.
Bien. Oui, d'ailleurs, je me proposais de le faire, monsieur le président. Donc, revenons à madame Mathieu et aux gardes. Ils viennent de sortir. Ils sont l'un près de l'autre, dans la nuit noire et le silence de la cour d'honneur. On peut très bien ne pas avoir beaucoup de conversation, mais après ce qui s'est passé entre eux, on peut penser néanmoins qu'ils se disent « bonsoir ». Exact, madame Mathieu.
C'est tout comme, monsieur Rouletabille.
Madame Mathieu, alors, se dirige vers la grille ouverte de cette cour et le garde, son devoir accompli, s'en retourne se coucher dans sa petite pièce en encorbellement. Pièce qui se trouve, je l'ai déjà dit, à l'aile droite extrême du château du Glandier, n'est-ce pas ? Bien. Alors, il va atteindre la porte quand deux coups de feu retentissent. Ah, là, il est inquiet, anxieux pour la femme qu'il vient de quitter. Et si le mari, Mathieu, n'avait pas une crise de rhumatisme aussi douloureuse qu'il a bien voulu le clamer, et s'il avait tiré sur elle ? Oh, dans un certain sens, le garde n'est pas un mauvais homme. Alors il se retourne, il revient sur ses pas. Et à l'instant précis où il touche à l'angle de l'aile droite du château, une ombre bondit sur lui, le frappe et meurt.
Madame Mathieu, vous avez la douleur intolérable dans une enceinte de justice. Nous respectons votre chagrin, bien qu'il soit parfaitement illégitime, mais vous-même, s'il vous plaît, respectez la justice. Qui est légitime, elle.
Je peux continuer, monsieur le président ?
Je vous en prie, monsieur Rouletabille, poursuivez.
Bien. Où en est... Ah oui, oui. Le cadavre du garde est immédiatement ramassé par mes amis et moi, et en toute bonne foi, nous croyons tenir l'assassin. Et en fait, nous n'en portons que l'assassiné. Pendant ce temps-là, me direz-vous, que fait madame Mathieu ? Alors, je vous demande, madame, de bien vouloir m'interrompre...
Oh, mais je ne ferai jamais.
De bien vouloir m'interrompre, chère madame Mathieu, si je m'écarte un tant soit peu de la vérité. Si par inadvertance, je me fourvoie dans le récit un peu confus de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, si vous n'intervenez pas, c'est que je suis dans le vrai.
Bien, monsieur Rouletabille.
Et que les choses se sont bien passées telles que je les aurais décrites. Bien. Donc, les détonations n'ont pas manqué de vous impressionner, n'est-ce pas, madame ? Alors, ne sachant où diriger vos pas, vous cherchez à vous faire la plus petite possible dans cette grande cour d'honneur vide et noire. Vous vous demandez, et c'est bien naturel, si un jaloux découragé n'a pas fait un carton sur l'heureux élu, l'amant comblé, en un mot, l'homme vert. Je suppose que pendant un court instant, vous songez à vous enfuir. Dans le fond, la cour est vaste et vous êtes tout près de la grille, vous pourriez très bien passer inaperçu. Seulement, voilà, réaction féminine, humaine, je dirais normale. Vous restez sur place, figé, muette d'horreur. Vous voyez emporter le cadavre de celui qui, peu de temps avant... enfin, bref. C'est alors que vous éprouvez un tragique pressentiment. C'est toujours d'accord ?
Oui, oui, c'est bien ça.
Vous allez donc jusqu'au vestibule du château, vous y pénétrez, vous jetez un coup d'œil à l'escalier. C'est là que l'on a allongé le corps du garde.
Oui, 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 je l'ai vu. Il était mort allongé sur la marche.
Réaction parfaitement naturelle, vous vous enfuyez.
Oui.
Chronologiquement, messieurs, c'est maintenant qu'intervient le père Jacques.
La cour vous remercie de tenir compte de la chronologie des faits, monsieur Rouletabille.
Mais c'est bien normal, monsieur le président. Alors, un peu avant le crime, cette même nuit, le père Jacques a été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu. Il s'est levé et, comme il était à prévoir, compte tenu de ce que j'ai révélé précédemment, il a aperçu à la fenêtre le fameux fantôme noir. Il a une réaction normale. Il veut savoir. Il veut, une fois pour toutes, observer de très près le visage de ce fantôme. Alors il descend, il s'approche, et il reconnaît madame Mathieu. N'est-il pas vrai, madame ?
Oui, monsieur Rouletabille.
Bien. Le père Jacques est un vieil ami de madame Mathieu. Obligatoirement, il lui pose des questions. Alors, que faire? Elle avoue ses amours clandestines avec le garde, ses rendez-vous. Et dans son affolement, elle supplie le père Jacques de bien vouloir la sauver, car le moment est difficile. C'est toujours d'accord, madame Mathieu?
Oui, monsieur Rouletabille, c'est exactement ça.
Le père Jacques est un très brave homme. Il prend en pitié madame Mathieu, car il fait nul doute que cette pauvre femme qui venait de voir son amant sans vie devait être dans un état pitoyable. C'est alors que le père Jacques vous a accompagné à travers la Chênaie, hein, vous a conduit hors du parc, au-delà même des bords de l'étang, jusqu'à la route d'Épinay sur Orge. Et arrivé là, il ne vous restait plus, madame, que quelques mètres à faire pour rentrer chez vous. Hein? C'est bien ainsi que tout s'est déroulé?
Oui, parfaitement.
Monsieur le Président, j'aimerais que le témoin ne soit pas sans cesse influencé par des demandes d'approbation réitérées.
Je pense que Monsieur Rouletabille vous a entendu. Si j'adhère en tout point à votre démonstration, Monsieur Rouletabille, je suis obligé de constater que le père Jacques a délibérément omis de rapporter un fait important s'étant déroulé la nuit du crime. Une sorte d'obstruction au cheminement de l'enquête, une entrave à la justice.
Sans doute, Monsieur le Président. Le père Jacques est rentré au château et il s'est tu. C'est vrai. On trouve rarement autant de duplicité chez des gens simples. Mais il voulait simplement éviter à une pauvre femme dans le malheur les chicaneries d'un interrogatoire inutile, peut-être. Mieux valait, selon lui, que l'on continue d'ignorer la présence de madame Mathieu sur les lieux.
Vous permettrez à la cour, monsieur, de ne pas être de cet avis.
Regardez donc la tête de monsieur Frédéric Larsan, monsieur le président. Elle prouve que j'ai vu juste et que mon explication est la bonne. Il y a longtemps qu'il a compris. N'est-ce pas, monsieur Larsan?
Oui, en effet.
Alors, Frédéric Larsan m'a vu, le lendemain matin, penché sur une double piste, où l'on rencontrait, voyageant de compagnie, l'empreinte des pas du père Jacques et celle des pas de madame Mathieu. Ah, voyez-vous, chère madame, tout le malheur vient du fait que les empreintes de vos pieds ressemblent, à s'y méprendre, aux traces des pas élégants de l'assassin.
Silence! Silence dans la salle, monsieur Rouletabille n'en a pas terminé.
Et non, monsieur le président. Madame Mathieu a le pied élégant, long, et je dirais un rien trop grand pour un pied féminin. Mais c'est comme ça. Et c'est à la différence d'un bout pointu, l'empreinte identique du pied de l'assassin, c'est vrai. Mais attention, gardons-nous d'imaginer des choses, car je m'empresse d'ajouter que ça ne signifie rien, et qu'un brillant policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables, sans mettre une idée générale autour, bien, irait tout droit à une monumentale erreur judiciaire, car enfin, monsieur Robert Darzac, lui aussi, a les pieds de l'assassin. Et pourtant, pas plus que madame Mathieu, il n'est l'assassin.
Allons. Revenons aux faits, sinon je me verrai dans l'obligation de sévir. Madame Mathieu.
Oui, monsieur le président.
Vous confirmez tous les dires de monsieur Rouletabille concernant la soirée et la nuit du crime?
Oh oui, monsieur le président. C'est vraiment à croire qu'il se trouvait derrière notre dos.
Je vous en prie, madame, faites très attention à ce que vous allez dire. Votre réponse revêt une importance considérable. Madame Mathieu, je vous pose une question précise. D'après les explications fournies par M. Rouletabille, vous avez forcément vu fuir l'assassin à l'extrémité de l'aile droite du château.
Oui, monsieur le président. De la même façon, j'ai vu emporter une minute plus tard le corps du garde.
Alors, ma question est simple. Qu'est devenu l'assassin? Madame, je vous le demande.
Mais je ne sais pas, monsieur le président.
Qu'est-ce que vous dites?
Mais que je ne sais pas, que je ne sais rien.
Madame Mathieu, vous avez reconnu être resté seul dans la cour d'honneur. Il est tout naturel que dans ces conditions, vous ayez aperçu l'assassin. D'autre part, Il ignorait votre présence et il ne pensait, lui, qu'à s'échapper.
Je vous jure que je n'ai rien vu, monsieur le président. Vous pensez bien qu'après avoir avoué tout ce que j'ai avoué, je pourrais également avouer l'avoir vu. Seulement voilà, il faisait très noir, une nuit bien obscure. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, où il est passé.
Monsieur Rouletabille.
Oui, monsieur le président.
Devant la carence de votre témoin, carence involontaire, je veux bien le croire, vous n'allez pas nous laisser sur notre faim.
Certainement pas, monsieur le président.
Puisque vous avez si astucieusement montré la voie, j'imagine que vous êtes en mesure maintenant de nous expliquer comment l'assassin s'est enfui.
Mon intention n'était pas de m'arrêter en si bon chemin, et je suis en effet capable d'expliquer comment l'assassin s'est enfui. Et vous verrez, c'est d'une simplicité désarmante.
C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Aujourd'hui, 21e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot. Larsan, François Mestre. Madame Mathieu, Monique Gérard. Maître Henri Robert, Pierre Olivier. S. Philippe Moreau. Le président Recou, Claude Pieplu. Le greffier, Bernard Musson. Et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 août 1983. Rouletabille et autres créatures romanesques rendaient-ils l'auteur Gaston Leroux heureux? L'écrivain et avocat Jean-Pierre Bourse en 2015 sur France Culture.
Au contraire de certains de ses concurrents, disons, comme par exemple Maurice Leblanc ou même Gustave Le Rouge, Gaston Leroux n'a jamais prétendu écrire du Flaubert ou du Maupassant. Il n'a jamais eu le moindre regret de se consacrer, comme il a fait, exclusivement à la littérature populaire. Il l'a d'ailleurs défendu très bien dans un article qui est paru dans Le Petit Niçois en réponse à Marcel Prévost, qui s'en était pris au roman populaire en disant un peu vaniteusement, « Moi, je fais du roman psychologique, ça, c'est de la grande littérature. Le roman populaire, le roman d'aventure, c'est très peu de choses. » Et Gaston Leroux lui a répondu, avec beaucoup d'esprit d'ailleurs, « Ne méprisez pas le roman d'aventure. Stendhal a écrit des romans d'aventure qui étaient tout à fait extraordinaires. Et donc, avec vos romans psychologiques, vous n'avez absolument rien à nous apprendre. » Et donc, Gaston Leroux n'a jamais regretté ces personnages de Rouletabille, de Chéri Bibi, n'a pas essayé de faire mourir comme Leblanc a fait avec Arsène Lupin, même Gustave Le Rouge.
Arsène Lupin n'est jamais mort. Non, Sherlock Holmes, Conan
Doyle
a voulu
Lupin
tuer.
Jamais, oui, pardon, non. Conan Doyle a fait mourir Sherlock Holmes, mais pas. Mais enfin,
l'a ressuscité aussi.
Il n'empêche que Maurice Leblanc, sans faire mourir Arsène Lupin, regrettait de devoir continuer à en écrire alors qu'il souhaitait faire du Maupassant. Et donc, vous avez là quelqu'un qui n'est pas du tout un auteur heureux d'écrire des romans populaires. Alors que Gaston Leroux en écrivait, et en écrivait qui en avait une telle qualité qu'ils peuvent être considérés comme d'excellents romans.
L'écrivain et avocat Jean-Pierre Bourse au cours d'une nuit de France Culture consacrée à Rouletabille le 20 septembre 2015. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission, demain à la même heure, le 22e épisode du mystère de la chambre jaune.